Chapitre 5. La découverte de sa vie. La technique du vaccin. À partir de 1877, Louis Pasteur va utiliser ses découvertes pour améliorer la santé des gens. Il sait que les micro-organismes contaminent les choses et les gens. Il veut à présent lutter contre eux. Il va pouvoir le faire, car on va enfin lui donner de l'argent. Mais avant, il travaille sur des maladies qui tuent les animaux. La maladie du charbon, qui tue les moutons, et le choléra des poules, qui tue les poules. À son retour de vacances, il retrouve de vieilles cultures de choléra. Il ne les jette pas, mais les inocule à des poules. Elles ne meurent pas, mais sont juste un peu malades. Puis, il inocule à ses poules une culture jeune de choléra. Elles ne meurent pas non plus. Pasteur vient de trouver un vaccin contre le choléra des poules. En fait, les cultures de choléra, en contact de l'oxygène de l'air, perdent de la force. Le virus est plus faible. Grâce à ces cultures plus faibles, les poules sont immunisées. C'est le principe du vaccin. Peu après, il travaille sur la maladie du charbon. Il fait comme avec les poules, mais au début, la technique ne fonctionne pas. L'oxygène ne diminue pas la virulence du micro-organisme responsable de la maladie. Pasteur décide alors de chauffer le micro-organisme et il l'affaiblit. Le vaccin contre la maladie du charbon est prêt. En 1881, on réalise une expérience sur des moutons, une chèvre et quelques vaches. On inocule à une partie des animaux des cultures affaiblies, puis des cultures virulentes. Ils vivent. Les animaux à qui on n'inocule pas de cultures affaiblies, eux, meurent quand on leur inocule des cultures virulentes. C'est la preuve que le vaccin fonctionne. Les commandes de vaccins augmentent tous les jours. Pasteur entre à l'Académie française, où siègent beaucoup d'écrivains. En 1879, sa fille, Marie-Louise, épouse René Valéry Radeau, un écrivain et ami de son fils, qui admire Pasteur. Pasteur est heureux. Un an plus tard, il a une petite fille, Camille, et il explique pour la première fois devant des gens la technique du vaccin. Sa vie professionnelle et sa vie personnelle vont bien. La rage chez les chiens. Louis Pasteur maîtrise à présent la technique du vaccin. Il veut maintenant l'utiliser pour l'homme. Depuis que deux de ses enfants sont morts de maladies infectieuses, il veut soigner les gens, sauver des vies. Il va commencer par la rage, car la rage touche les hommes, mais aussi les animaux. La rage est une maladie que certains animaux, comme les chiens, donnent à l'homme quand ils les mordent. Les gens qui ont la rage sont agressifs. Ils ont des hallucinations, ils font des crises de panique, et parfois ils meurent. À l'époque, la rage fait très peur. Au début, Pasteur veut isoler le virus de la rage, mais il ne peut pas. Les microscopes de l'époque ne permettent pas de voir le virus. Mais il sait, et sent que la maladie touche les nerfs, que le virus est dans le cerveau et la moelle épinière. Il commence par travailler sur les lapins. Il met des moelles de lapins porteurs de la rage dans des flacons et les met en contact avec l'air pour diminuer leur virulence. Louis Pasteur injecte ces moelles de lapins moins virulentes à des chiens enragés, puis il injecte aux chiens des moelles de plus en plus virulentes. Les chiens ne meurent pas. Le 25 février 1884, Louis Pasteur présente sa découverte sur la rage à l'Académie des sciences. On nomme une commission pour étudier la méthode. On vaccine 50 chiens, puis on leur inocule le virus de la rage. Ils vivent. La commission valide la technique. La rage chez les hommes. Pasteur a peur d'essayer son vaccin sur l'homme. Le risque est très grand. Si la personne meurt, c'est très grave. Mais début juillet 1885, une femme, Marie-Angélique Mester, arrive dans le laboratoire de Pasteur à l'école normale avec son fils de 10 ans, Joseph. Elle vient d'Alsace, une région du nord-est de la France. C'est loin de Paris. Elle est passementière et son mari est boulanger. Leur fils a 14 morsures à la main, aux jambes, aux cuisses, à cause d'un chien enragé. Il marche avec difficulté. La mère supplie Pasteur de vacciner son fils. Au début, Pasteur refuse. « Votre fils peut mourir à cause du vaccin, madame. »« Il va mourir s'il n'a pas le vaccin, » répond la mère. « Je vous en prie, monsieur Pasteur, vaccinez Joseph. Je viens de loin. Vous êtes notre seule chance. » Pasteur hésite, puis il accepte. Il n'est pas médecin, alors il ne peut pas vacciner un être humain. C'est le docteur Granchet qui, pendant 10 jours, va inoculer à Joseph une moile contaminée vieille de 15 jours, puis des moiles de plus en plus jeunes, plus virulentes, puis le dernier jour, une moile qui peut tuer. Pasteur est là tous les jours. Il est très inquiet. Tous les jours, il demande à Joseph comment il va. Après la 13e et dernière piqûre, Joseph va bien. Le vaccin fonctionne sur les humains. Pourtant, Pasteur ne parle pas beaucoup de cette expérience. Il attend. En septembre 1885, Jean-Baptiste Jupille, un jeune berger de 15 ans, arrive dans le laboratoire de Pasteur. Comme Joseph, il a des morsures d'un chien enragé. Pasteur recommence le traitement fait à Joseph. Nouveau succès. En octobre, Jean-Baptiste est en pleine forme. Cette fois, Pasteur parle de ses expériences sur les humains. Le 26 octobre, il expose devant l'Académie des sciences sa méthode pour éviter la rage après morsure. Le lendemain, il fait la même chose devant l'Académie de médecine. À partir du 27 octobre 1885, tous les journaux en parlent. Pasteur devient le bienfaiteur de l'humanité. Beaucoup de Français et d'étrangers veulent avoir le vaccin. Des Américains arrivent d'Amérique en bateau, au Havre, un port français du nord de la France. Début 1886, on compte déjà 350 personnes vaccinées. Le laboratoire est trop petit. Louis Pasteur décide de créer un endroit pour la vaccination, la recherche et l'enseignement. Notre institut sera un dispensaire pour le traitement de la rage, un centre de recherche pour les maladies infectieuses et un centre d'enseignement. La création de l'Institut Pasteur. Pour créer cet endroit, il faut de l'argent. Beaucoup d'argent. On crée une souscription internationale. Beaucoup de gens, français et étrangers, donnent de l'argent. Des riches, des moins riches, des industriels, des artistes, des souverains étrangers, des anonymes. Pasteur demande de l'argent à tout le monde. L'écrivain Jules Renard raconte dans son journal la rencontre de Pasteur avec la propriétaire du grand magasin Le Bon Marché. Pasteur se présente, va chez Madame Veuve Boussicot, la propriétaire du Bon Marché. On hésite à le recevoir. « C'est un vieux monsieur, » dit la bonne. « Est-ce le pasteur pour la rage des chiens ?» La bonne va demander. « Oui, » dit Pasteur. Il entre. Il explique qu'il va fonder un institut. Madame Boussicot prend un carnet, signe un chèque et l'offre, plié, à Pasteur. « Merci, madame, » dit-il. « Trop aimable. » Il jette un coup d'œil sur le chèque et se met à sangloter. Il pleure. Elle sanglote avec lui. Le chèque est d'1 million. Le 14 novembre 1888, c'est l'inauguration de l'Institut Pasteur. Dehors, il y a beaucoup de monde. Le bâtiment fait 11 000 mètres carrés. Il est en briques et en pierre. Devant, on peut voir une statue en bronze du berger Jupille qui se bat avec un chien. Dedans, il y a beaucoup de monde aussi. On parle de 600 invités, des hommes politiques, des savants, des amis, des collaborateurs. Le président de la République française, Sadi Carnot, est là. Quand il entre, on entend la Marseillaise, le chant de la France. Pasteur descend les escaliers pour lui dire bonjour. Son fils, Jean-Baptiste, tient son père, qui est faible, par le bras. Pasteur porte le cordon de commandant de la Légion d'honneur. Son fils lit son discours. Après les discours, le président Sadi Carnot se lève et serre la main de Pasteur. « Votre institut est un honneur pour la France », dit-il. À la fin, tout le monde applaudit Pasteur qui, ému, porte plusieurs fois son mouchoir à ses yeux. Son père peut être fier de lui. Pasteur est aussi célèbre que Napoléon à présent.